Bonsoir, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on y arrive, on a eu une mise à jour qui a un peu tout cassé, mais c'est pas grave. Voilà, on y arrive, ça fonctionne, on a le son qui est revenu, me demandez pas pourquoi ça a changé, mais voilà, ravi de vous retrouver. Il est lundi soir, 22h, vous en avez déjà désormais l'habitude, c'est l'heure de Lucarne américaine. Si jamais vous regardez cette émission en replay ou vous écoutez cette émission, on est en direct sur Twitch et sur Kick. Tous les lundis à 22h, l'occasion pour moi de saluer ceux qui sont déjà présents dans le chat. Vince, Romano, ma foi, Keondaway, voilà. Ok, il y a un Mexicain dans le coin. Rem, Romano, je l'ai dit. Ma foi, je l'ai dit. Biscuit, Red, Ibra et What RT. Bonsoir à toutes et à tous, je le disais. Donc, c'est le troisième épisode de cette lucarne américaine. On va passer à peu près une heure pour se promener sur les différents pays, sur les Amériques, tout simplement. On va naviguer entre pays dans les Amériques ce soir. Bonsoir à Alex Mino aussi qui est dans le chat. On va découper l'émission en deux parties. Vous connaissez, pour ceux qui étaient déjà là, si vous découvrez, ça va fonctionner comme ça. Deux parties dans l'émission. D'abord, quelques news sélectionnées aux petits oignons, hein, par moi-même, bien sûr. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est un dossier. Et cette semaine, le dossier, il est spécial. Hein. Ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine, mais voilà, il s'est passé ce qu'il s'est passé. On va parler de César Luis Menotti parce que c'est important de consacrer un bon moment à ce qu'il était, César Luis Menotti, ce qu'il représentait, ce qu'il va peut-être laisser. C'est une question qui va rester ouverte et vous verrez, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et ensuite, troisième partie, il y aura donc forcément les Golasso Hello et les rendez-vous. Bref, on va parler de tout cela. Oui, on évoquera la Coupe du Monde 78, forcément. Vous verrez, j'ai coupé ça en quelques points parce qu'une émission sur Menotti, je pense qu'on pourrait faire comme Diego, on pourrait faire une émission de 3-4 heures. Donc voilà, on ne va pas faire 3-4 heures, j'ai dit, c'est une heure et demie max. Donc voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir démarrer. Et ben, si vous en avez l'habitude, on va démarrer, comme toujours, les lucarnes américaines, désormais, par les news de la semaine. Et comme la semaine dernière, on va débuter justement, on va débuter par ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, je vous avais parlé de Bolivie, de football en Bolivie, je vous avais parlé du tournoi. On en avait profité pour faire un petit peu le point sur ce qui s'était passé dans ce pays-là ces derniers mois, et d'évoquer une finale que personne n'avait vu venir entre San Antonio Bulobulo et l'Universitario de Vinto. Je vous laisse réécouter l'émission de la semaine dernière ou juste les news que j'ai découpées pour si vous n'êtes pas au courant, pour voir quelles sont ces deux équipes et comment on en est arrivé là. Bref, cette semaine, donc mercredi et dimanche, c'était la grande finale de ce championnat, la Copa Paceña, première partie de la saison bolivienne, finale entre, donc je le répète, San Antonio Bulobulo et l'Universitario de Vinto. Et cette finale a été remportée, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez une photo d'un vainqueur, et ce vainqueur, c'est San Antonio Bulobulo qui s'est donc imposé grâce à une victoire au Capriles au match aller mercredi 2-1 et un match nul à la maison au retour, un but partout. Je vais même en profiter pour vous montrer les buts. Vous voyez les buts du match aller, les deux buts de San Antonio Bulobulo, avec notamment ce joueur là qui est en train de marquer, Felipe Pasadore. On en avait parlé la semaine dernière de cet attaquant argentin de 23 ans. Si vous n'étiez pas là, je vais quand même rappeler parce que l'histoire est quand même dingue. Ce garçon était sans club, avait déposé et formé à Belgrano, était sans club. C'est lui aussi qui va marquer le seul but du match retour. Il est le meilleur buteur de ce tournoi. Ce garçon avait déposé une annonce sur Facebook dans un groupe ouvert pour les joueurs qui sont libres et qui cherchent un club ou un agent. Il a été meilleur buteur de la Copa Simón Bolívar que San Antonio Bulobulo a remporté pour arriver en première division. Et il est donc aujourd'hui meilleur buteur de ce tournoi que son équipe vient de remporter, 23 ans. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Donc voilà, je salue Paul Bismuth qui est dans le chat. Il n'y a pas de Tony Parker à San Antonio Bulobulo, Pierre. Salut à Carole. Je viens d'avoir la fibre. J'espère enfin pouvoir regarder en direct. Ça devrait aller, j'espère. Mais t'as raté les bugs de début, donc tu vois, t'arrives au bon moment. Bref, donc je le disais, cette équipe-là est donc championne pour sa toute première saison de l'histoire en première division bolivienne. Vous avez vu les buts. La conséquence de tout cela, c'est que cette équipe-là, San Antonio Bulobulo, est la première vraiment, pour le coup, première équipe qualifiée pour la Libertadores 2025. La deuxième est tombée hier soir, hein, c'était Estudiantes qui s'est imposé au tir au but en finale de la Copa de la Liga Argentina face à Vélez, mais le tout premier qualifié pour la prochaine Libertadores s'appelle San Antonio, boulot. Vous en savez un petit peu plus sur cette équipe parce qu'on en a parlé la semaine dernière, et donc voilà, c'est une grosse surprise, c'est une sacrée sensation. On va voir maintenant comment cette équipe-là va résister, parce que je pense par exemple à Felipe Passadoré. Ça va être compliqué quand même de le conserver, mais qui sait. Voilà, je vous laisse, si vous avez Twitter, aller sur Twitter et chercher en marquant San Antonio boulot. Vous allez voir que c'est très drôle, il y a beaucoup de choses très drôles. Il y a des clips qui sont mis à base d'équipes brésiliennes, époque Ronaldinho, Adriano et compagnie, pour montrer ce que sera cette équipe en Libertadores l'année prochaine. Bref, voilà, ça, on aura donc un nouveau participant à la Libertadores, il sera bolivien. Et je l'ai vu ta blague, Red le Rouge, je sais pas s'il y aura un San Antonio chômage, mais voilà. Bref, ils sont qualifiés, vous allez me dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, on a eu un tournoi avec donc une surprise, un tournoi qui s'est passé somme toute à peu près normalement, mais bien évidemment on est en Bolivie, donc les choses peuvent pas forcément se passer complètement dans le calme. À la veille du match aller, le club a publié ce communiqué sur ses réseaux que je vais vous traduire tout simplement. Compte tenu des mauvaises campagnes menées par certains clubs, des déclarations surgissent en essayant de ternir notre finale de Cochabamba et la première de notre histoire. C'est pourquoi notre club demande le respect en ce moment, lorsqu'il s'agit de discréditer le tournoi d'ouverture avec des plaintes verbales envers notre plus haute entité fédérale. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Nous exhortons Noël Montagno et Marcelo Claure à présenter des preuves de cette diffamation, et s'ils ne veulent pas, seulement profiter du moment où ils n'ont pas de compétition pour diffamer le président de la Fédération bolivienne. Alors vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce communiqué qu'on envoie à la veille d'une finale ? Pour parler de Marcelo Claure, c'est le président de Bolivar. Noël Montagno, c'est l'ancien président de l'association Cruceña de football. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont nommés ? Pourquoi a-t-elle communiqué ? Pourquoi parler de discrédit ? Et pourquoi donc défendre le président de la Fédération bolivienne ? Si vous aviez suivi les épisodes précédents, il y a un 9-10 où je parlais de ce président-là, c'est Fernando Costa, l'homme qui a tenté de s'attaquer au match truqué. Hein. Je vous renvoie vers cet épisode et vers ce dossier du 9-10 qui doit remonter à 6-7 mois. Bref, alors pourquoi se communiquer ? Eh bien écoutez, on va rentrer un petit peu dans le détail. Noël Montagno, je le disais, c'est l'ancien président de l'association Cruceña de football. Alors, ancien parce qu'il a été viré, ils l'ont dégagé de la fédération parce que ce garçon, il a accusé le président de la fédération bolivienne, qui, je le rappelle, s'était transformé en lanceur d'alerte pour lutter contre les matchs truqués, les paris sportifs et tout, si vous vous souvenez de tout ça. Il l'accuse donc à Fernando Costa d'avoir acheté l'arbitre. D'un match qui avait opposé le Real Santa Cruz à The Strongest en 2021. C'était la dernière journée du championnat. Et en gros, il fallait que The Strongest s'impose pour être assuré du titre. The Strongest avait perdu 1-0. Et donc, il se dit, en tout cas, Noël Montagno dit que Fernando Costa avait fait en sorte que The Strongest perde et donc ne soit pas titré à la fin de cette compétition. Je ne sais pas s'il a des origines catalanes. Le fait est que voilà, il a été destitué de sa présidence. Sachez que lui aussi est accusé de corruption. Tout le monde s'accuse un petit peu de corruption. C'est un petit peu magnifique. Et donc, vous comprenez ce qu'il y a un petit peu là-dessous, c'est qu'on est en plein règlement de compte. Alors, The Strongest a quand même réagi à tout cela, parce que The Strongest, souvenez-vous des histoires avec Fernando Costa l'année dernière. Je vais vous montrer à quoi ressemble Fernando Costa si vous avez des images. C'est lui, Fernando Costa. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, j'ai presque envie de dire que Fernando Costa avait stoppé le championnat l'année dernière. Ça avait mis un foin pas possible parce qu'il voulait faire sortir des équipes, recommencer. Enfin voilà. Et The Strongest était aux portes de perdre un deuxième titre qui lui tendait les bras. Ça n'est pas arrivé. Ils ont fini par redémarrer le championnat et tout. Bref, The Strongest a réagi et a publié un communiqué que vous voyez, je ne vais pas vous le lire, il est long, c'est juste pour vous montrer. Et en gros, concrètement, que dit The Strongest dans cette histoire ? C'est, eh ben écoute, cher Noël, envoie les preuves. Voilà quoi. Et lundi dernier, Bolivar, Oriente Petrolero, Blooming et Royal Paris ont, eux, envoyé une lettre au comité exécutif de la Fédération bolivienne de football pour qu'il ouvre une enquête contre Fernando Costa en raison de cette plainte. Une plainte qui, donc, pour l'instant, on n'a pas vu, on n'en a pas vu les preuves. La note, elle a donc été signée par les présidents de ces quatre clubs. Je rappelle, Bolívar, Oriente Petrolero, Blooming et Royal Paris. Bolívar, donc, Marcelo Claure, avec une copie adressée au président de la FIFA, tout simplement, monsieur Gianni Infantino, histoire de mettre un coup de pression. Donc, je vous l'ai dit, hein, je vous avais rappelé ce que faisait Fernando Costa à l'époque. Les Noëls dans le foot, qu'elle plaît. Ah bah là, tu vas voir, on en a un bon. Et j'en profite, tiens, en parallèle pour saluer Renaud 1811. Bonsoir à toi. Bon, il y avait eu cette affaire de match truqué. On rappelle que ça n'avait débouché pour l'instant sur rien. Ça parlait d'envoyer au pénal et tout. Il n'y avait rien. Marcelo Claure, lui, sur Facebook, a demandé une enquête dans la foulée de The Strongest, son meilleur ennemi, en expliquant « Il y a une accusation publique contre le président de la Fédération bolivienne de football qui aurait versé 7 000 $ à un arbitre pour nuire à une équipe. C'est grave. Laisser passer cela serait désastreux pour le football bolivien. Ce même président a arrêté le football pour de prétendus matchs truqués et ici, tout le monde fait semblant d'être fou. Les championnats ne sont plus crédibles. Le président en question devrait se mettre en retrait de ses fonctions jusqu'à ce qu'une enquête soit menée et assumer sa défense et clarifier publiquement. » Je vous passe la suite parce que voilà. Il a donc emboîté le pas de Noël Montagno. Mais dans l'histoire, donc, il n'y a absolument rien. Alors, Claure dit « Je ne dis pas que Costa est coupable, mais qu'il veut une enquête. » Alors, dans l'histoire, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête. Et la chose la plus rigolote pour essayer de boucler un petit peu et un petit peu aller continuer dans le n'importe quoi, et c'est pour ça que je vous dis aussi que ça ressemble un petit peu à un règlement de compte à Hockey Corral, c'est que l'avocat de l'association Cruceña de Football, qui s'appelle Wilfredo Vélez, et qui était aussi accessoirement l'avocat de Noël Montagno, a démissionné la semaine dernière en expliquant qu'il a demandé des preuves à son client et que son client ne les lui a jamais montrées. Donc, il y a eu, on résume, on a donc un membre de l'association, le président de l'association Cruceña de football, qui accuse le président de la fédération bolivienne d'avoir acheté un arbitre pour truquer un match qui a donc privé The Strongest d'un titre, qui n'a avancé absolument aucune preuve. The Strongest a dit « bah vas-y, envoie les preuves ». Bolívar, qui dans l'absolu n'est pas concerné par l'histoire, a dit « il faut ouvrir une enquête ». Ils sont plusieurs clubs à dire « il faut ouvrir une enquête contre le président de la fédé ». Il n'y a aucune preuve qui a été montrée, et même le président du gars qui a lancé cette attaque a démissionné parce qu'il n'a pas de preuves. Et il ne veut même plus que son nom soit associé à cette histoire. Et ce cher, pour boucler complètement, et vous voyez à quel point c'est le bordel très rapidement en Bolivie, et c'est voilà, toujours un peu le même problème, malheureusement, ce cher Vélez, Wilfredo Vélez, a ajouté qu'il existait un complot pour faire tomber Fernando Costa, que ce complot était fomenté par Noël Montagno et soutenu par plusieurs présidents de clubs, dont Blooming et Oriente Petrolero. On peut imaginer qu'il y a aussi peut-être Claure dans l'histoire. Voilà, tout le monde règle ses comptes. Les traditionnelles petites luttes de pouvoir et les chamailleries entre eux, c'est la Bolivie. C'est ce qui plombe complètement le football bolivien depuis des années. C'est pas prêt de s'arrêter. Mais voilà, on était sur une finale qui était plutôt sympathique avec... voilà, des choses nouveautés, enfin deux équipes qu'on n'attendait pas, avec des modèles, je le disais la semaine dernière, particuliers, masse salariale très faible, comme ça on peut payer les joueurs. C'est pas un détail en Bolivie. Donc voilà, bref, c'est la Bolivie, c'est magique, on en retient quand même qu'on a donc un champion qui s'appelle San Antonio Bulo, qui est la première équipe qualifiée pour la Copa Libertadores 2025, elle sera le premier représentant bolivien. Et je le disais, elle a été rejointe par une deuxième équipe hier, Estudiantes, qui s'est imposée face à Vélez au tir au but. On va changer totalement, mais totalement d'ambiance. On va être sur des choses où, pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. On ne va pas être sur des polémiques. Gabriel Garcia Marquez ferait un super roman de cette histoire. Je pense que ça serait un roman compliqué à écrire. Je pense que le jour où quelqu'un va vouloir se lancer là-dedans, Alessandro... voilà, bon courage à lui parce que on est dans du thriller politique, donc voilà, faut y aller. Bref, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On va parler de football féminin, on va parler du Sudamericano U20 féminin qui se tenait en Équateur. qui vient de se terminer. Il s'est terminé hier. Il s'est terminé sur, pas une surprise, hein, tout simplement, il s'est terminé sur la victoire du Brésil, qui a donc remporté cette épreuve. J'explique brièvement un petit peu comment ça fonctionne, tout cela, si vous n'êtes pas trop habitué à ces compétitions-là, parce que ce n'est pas le même format, justement, que la Copa América chez les grands, chez les A. Le Sudamericano U20, c'est pareil chez les filles et chez les garçons. Vous avez d'abord une première phase de groupe où les 10 pays sont répartis en deux groupes de 5. Les trois meilleurs de chaque groupe se qualifient pour un tour final à 6, d'où le nom de ce tour final qui est hexagonal. Voilà, c'est pas trop compliqué à comprendre. Et là, cette année, à cette hexagonale finale, donc 6 équipes, on devait définir quelles seraient les 4 équipes qui accompagneront, choisissez, la Colombie à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Et donc, le Brésil s'est imposé. Pourquoi dis-je que ce n'est pas une surprise, cette histoire? C'est parce que c'était la 10e édition du Sudamericano U20 féminin, et c'est juste la 10e victoire du Brésil. Voilà, ils sont champions, elles sont championnes chaque année. Donc les Brésiliennes sont encore championnes et elles seront accompagnées. Donc quels sont les pays, outre la Colombie, mais je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, vont les accompagner. Vous le voyez sur cette image, il va s'agir de l'Argentine, du Paraguay et du Venezuela. Petite anecdote, petite statistique au passage, le Paraguay a terminé deuxième de ce Sudamericano et c'est la 4e fois en 10 éditions que le Paraguay est la 2e meilleure nation chez les filles, chez les U20, sur le championnat sud-américain de football. Alors, ça qualifie donc ces 5 équipes pour la Coupe du Monde de la catégorie. S'il y en a 5 qui se qualifient, c'est qu'il y en a une. Voilà, qui se retrouve un petit peu à la place, hein, vous voyez ce que je veux dire. Cette équipe-là, c'est le Pérou, qui a donc terminé 6e de l'hexagonale et qui a même pris deux tôles. Hein. Ils ont pris 5-0 contre l'Argentine et 6-1 contre le Venezuela. Et c'est terrible parce que les filles de la Blanquiroja avaient fait un super premier tour et elles se sont complètement écroulées sur ce tour final. Bref, donc, je le disais, vous avez ces cinq équipes qui viennent compléter le casting de la Coupe du Monde. Casting qui est donc désormais complet pour la Coupe du Monde. Elle va se dérouler à la fin de l'année. Et pourquoi la Colombie est déjà qualifiée? Parce que c'est la Colombie qui va l'accueillir, cette Coupe du Monde. Tout simplement, ça se déroulera du 31 août au 22 septembre prochain. C'est la 11e édition de la Coupe du Monde de la catégorie, tout simplement. Ce n'est que la 2e qui va être organisée en Amérique du Sud. Petit clin d'œil quand même, c'est assez rigolo. La précédente, c'était en 2008 au Chili et c'était celle avec laquelle, c'était le sujet sur laquelle a été écrit le tout premier article, le billet inaugural de Lucarne Opposée, puisqu'à l'époque, j'avais parlé de la demi-finale qui attendait l'équipe de France U20 face à la Corée du Nord dans cette Coupe du Monde U20. Bref, il y a des petites nouveautés quand même sur cette Coupe du Monde U20 féminine 2024. C'est la première qui va se disputer à 24 équipes. Donc voilà, on étend un petit peu le nombre de participants. Je vous rappelle que l'Espagne est la tenante du titre, ou je vous le rappelle, ou peut-être que vous ne le saviez pas. Le Brésil a fini 3e de la dernière édition. Il avait été éliminé en demi-finale par le Japon. Et si vous voulez un petit peu plus d'infos, donc je le disais, début de l'épreuve, 31 août prochain, finale le 22 septembre, ça va se répartir sur 4 stades, et le tirage au sort des groupes, la France y participe, hein, j'ai pas noté le casting complet, mais la France va y participer, la France est même dans les têtes de série et dans le chapeau 1. Tirage au sort des groupes aura lieu le 5 juin prochain à Bogota, forcément, on ira en parler à un moment donné, on en parlera de cette histoire et de ce tirage, on dévoilera les groupes complets, voilà, on en reparlera. Mais si vous voulez suivre la Coupe du Monde U20, eh bien, ça se déroulera en Colombie à partir de la fin août. On va passer à la dernière news de la semaine. Alors, je disais, on a commencé sur du un peu lourd, même si on avait de la joie avec un titre. On est sur quelque chose un peu plus sympa. Là, on va rigoler un petit peu. On va aller au Chili. Je vais vous emmener à Iquique, c'est une ville portuaire au nord du pays, hein. On n'est pas très très loin en termes de kilomètres et d'heures de route de la frontière avec le Pérou. Et je vais vous emmener dans ce stade, magnifique stade d'ailleurs, qui porte un joli nom, Tierra de Campeones, Terre des Champions, tout simplement. C'est le stade de la ville et c'est le stade de l'équipe locale, le Deportes Iquique, qui est probablement une des équipes qui a l'un des plus beaux surnoms, puisque ce sont les Dragons Célestes, si je vous le traduis en français. Bref, on ne va pas parler d'état de terrain, on ne va pas parler de football, de choses, on va parler de police. Alors, il y a eu une opération qui a été menée parce qu'il s'appelle la Brianco, la brigade antidrogue de la police chilienne. Cette opération magnifique, qui a un nom Operación Fantasma, voilà, a été un vrai succès. Hein, donc c'est lutte contre les narcos et le trafic. Hein, et cette opération a été un vrai succès parce que les forces de l'ordre ont saisi 1600 kilos de drogue et ont arrêté 6 personnes. Alors vous me dites, bon ok, super, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que ces chères forces de l'ordre, au lieu de faire des tweets en mode certains de nos ministres français ou certains de nos préfets ou etc., etc., ils se sont dit, la Brianco s'est dit, bah, on va faire une conférence de presse histoire de montrer qu'on est des champions. Et ces champions-là, ils ont trouvé une idée de fou. Ils se sont dit, on va faire la conférence de presse dans ce stade, au Tierra de Campeones. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont dit, étape d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous savez quoi, on va carrément mettre tout ce qu'on a saisi bah, sur le terrain. Voilà. Donc, ils ont posé 1600 kilos de drogue sur le terrain du stade du Deportes Iquique, et qui est aussi le stade municipal. Vous voyez les images en gros plan de à quoi ça ressemble, et vous voyez, je vais vous montrer une image un petit peu plus lointaine. Voilà ce que ça donne. Il y a des morts. Voilà, il y a des paquets de drogue déposés un petit peu partout sur le terrain. Ils ont montré leur force, sauf que ça n'a pas fait rire du tout. Parce que sur ce terrain-là, sur ce stade-là, qu'ils ont donc fermé à ce moment-là, d'habitude, ce sont. Alors, quand ce n'est pas l'équipe de foot qui joue, ce sont les gamins de la ville, puisque c'est le stade municipal. Donc, ça a grogné par rapport à ça. Le correspondant de la radio, d'une radio de la région, Christian Nunez, a partagé ça sur Twitter pour montrer son indignation et ça a explosé derrière. Le conseiller municipal de la ville, Washington Santos, a carrément envoyé une lettre au maire de la ville en lui disant « Non mais mec, c'est pas possible, le stade ne peut pas être utilisé pour montrer des images de ce type parce que il estime, à juste titre, hein, enfin, ou pas, hein, vous, voilà, que l'image d'un stade de foot ne peut pas être utilisée pour montrer une saisie de drogue parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un stade. Et en plus, voilà, le club n'a pas vraiment réagi. On sait qu'au niveau du foot, ça a grogné un petit peu sur certains parce que ben, voilà, tu associes donc l'image du club aussi à ces échantillons, enfin à cette capture, à cette lutte contre les narcos. On est quand même dans des coins où c'est un peu, hein, faut faire attention. Et on a même des athlètes, hein, athlètes qui font de l'athlétisme. Un qui est local, hein, qui est un coureur de 400 mètres, notamment au Chili, qui s'appelle David Escobar. Non, ne riez pas, je vous jure que c'est vrai. Qui est triple médaillé, hein, quand même, dans les Jeux sud-américains. Qui a fait part de sa colère parce qu'il explique carrément qu'ils sont allés poser ça sur le terrain d'herbe, que eux, athlètes, n'ont même pas le droit de fouler sous peine de prendre des sanctions. Bref, c'est la news un petit peu rigolote. Ça fait rire, hein, quand même, c'est pas grave, c'est pas la mort. Mais c'est juste pour dire à nos chers communicants des forces de l'ordre, essayez de trouver d'autres idées quand même. Voilà. Et c'est donc là-dessus qu'on va clore, pardon, cette partie sur les news de la semaine. On va pouvoir donc maintenant aller se concentrer sur le dossier. Je le disais, j'avais pas prévu ça à l'origine, j'étais parti sur toute autre chose. On va le garder de côté parce que c'est, entre guillemets, du contenu froid, quoique il est alimenté un petit peu fréquemment. Je vous dis pas ce que c'est, on en reparlera un autre jour. On va passer donc maintenant au dossier de la semaine. Alors, vous le saviez tous, vous le savez tous, sauf si vous étiez coupé du monde ce week-end. Mais donc, César Luis Menotti s'est éteint ce dimanche à l'âge de 85 ans. Ah, si ça s'affiche pas, ça marche pas, voilà. À l'âge de 85 ans, il avait été hospitalisé fin mars pour une anémie et une phlébite. Et son état, hein, forcément, son état inquiétait depuis plusieurs semaines, ne faisait qu'empirer. Donc, voilà, l'inévitable, le terrible est arrivé. Sa mort laisse un vide, forcément. Elle marque aussi, surtout, le départ d'un autre, d'une autre pierre philosophale, d'un autre pilier du football argentin, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle, après Diego Armando Maradona. Et donc, forcément, j'ai décidé de bousculer un petit peu ce qui était prévu au programme pour revenir en quelques points sur ce qu'était Menotti, parce que certains d'entre vous le connaissent probablement son parcours, d'autres peut-être pas. Et c'est important dans ces moments-là d'essayer de montrer pourquoi les hommages déjà sont si nombreux, pourquoi tout le monde relaye cette nouvelle-là, pourquoi c'est si important, entre guillemets, dans l'histoire du football argentin, mais pas que, vous allez voir pourquoi. Et donc, on va essayer d'aborder, alors on ne va pas pouvoir faire tous les éléments de la carrière de Menotti, parce que sinon l'émission, elle va durer 7h28, je le disais tout à l'heure, et ce n'est pas l'idée, mais on va essayer donc de revenir en quelques points sur ce qu'il était, et surtout de voir ce qu'il a apporté au football argentin, et pas que, vous verrez que c'est vraiment pas que. Juste pour planter le décor, donc, une personnalité hors norme, on ne peut pas faire autrement que de lui rendre hommage, on est d'accord, Renaud. Les années 70 ont pris cher cette année, exactement, Beckenbauer, Gigi Riva, Menotti, ouais, exactement. Après, bon, hein, les années 70, Alessandro, je suis bien placé pour en parler, ça commence à approcher des 50 ans quand même, pour certaines années. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, on va essayer de revenir un petit peu. On va juste planter un petit peu le décor. On va rappeler que César Luis Menotti est né à Rosario en 1938. Alors, soit le 22 octobre, soit le 5 novembre. Officiellement, le 5 novembre. Officieusement, le 22 octobre. Je vous renvoie vers l'interview qu'il avait donnée au Grafico et que l'on a traduite pour Lucarne Opposée, que j'ai ressortie parce qu'on l'avait traduite il y a 8 ou 9 ans de cela. Donc, je l'ai ressortie aujourd'hui pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de... Enfin, voilà, vous puissiez avoir la parole de Menotti. Il a été joueur, hein, le Flaco Menotti. Là, si on en met le Flaco, si vous ne savez pas, ça veut dire le maigre, hein, parce que tout simplement, il était grand, grand et fin. Vous voyez sur cette image du Grafico, il a été joueur. Il a joué à Rosario Central, notamment. C'est son club de cœur. C'est le club de la famille Menotti, hein, très clairement. Donc, c'était le passage obligé. Ça me rappelle que Bilardo, lui non plus, n'est pas au top. Non, Carlos Bilardo est atteint d'une maladie neurodégénérative et ça va pas fort. Je me souviens qu'à l'époque où Diego nous a quittés, ils ont fait en sorte de ne pas lui annoncer. Donc, je ne sais pas s'ils lui ont dit depuis. Mais je sais qu'à ce moment-là, parce qu'il allait déjà pas très fort. Donc non, c'est toute cette génération-là, ça va pas très fort. Et on parle de génération parce que, et on parlera de Bilardo forcément tout à l'heure, mais Menotti est né en 38. Donc je vous disais, soit 22 octobre, soit 5 novembre, c'est juste une histoire que son père était pas là le jour où il est venu au monde et il est arrivé trop tard pour l'enregistrer, donc il a décidé de l'enregistrer au 5 novembre. Bon, bref. Bilardo est de mars 1938, donc c'est vraiment, je crois, à peu près par là. Donc, en tout cas, il est de 38, c'est la même année. Donc, je le disais, il a été joueur, Menotti, milieu de terrain, il a joué à Rosario Central, son club de cœur, donc il a joué aussi à Racing, il a joué à Boca, il a même joué à Santos, à l'époque de Pelé. Et donc, il s'est très rapidement quand même reconverti entraîneur, puisqu'il a vécu sa première expérience d'entraîneur de manière assez rigolote à Newell's, l'ennemi absolu de Central. Je vous renvoie vers l'interview, comme ça, l'entretien, comme ça vous pourrez comprendre tous ces éléments-là. Il en parle, il explique pourquoi il est de Central, il explique pourquoi il est allé il n'est pas senti comme étant un traître pour aller lorsqu'il a débuté comme entraîneur adjoint à Newell's. Je vous laisserai découvrir tout cela. Mais justement, il débute comme assistant à Newell's et en 1971, vous avez deviné quand il n'a que 33 ans, il arrive à Huracán. Et Huracán, je l'ai vu passer, hein, Pierre en a parlé dans le chat, c'est notre premier point sur lequel on va s'arrêter, le fameux Huracán de 1973. Un entretien long et passionnant. Ouais, non, il est vraiment à lire. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on l'a traduit, mais c'est vrai que... Voilà, si on l'a traduit, c'est parce qu'il est indispensable aussi. Et donc, voilà, on va parler de cet Huracán de 1973. Pareil, hein, on va essayer de... J'essaye d'entrer dans le détail, mais pas trop, parce que sinon, je vous dis, l'émission n'a plus de fin. On avait fait, je crois, une émission de 4 heures ou 5 heures sur Diego, et on pourrait faire pareil sur Menotti, tant il y a de choses à dire. Mais c'est important, on est sur une séquence hommage. Je pense que je mettrai en place des... Il va y avoir des choses hein, autour de Menotti, de l'écrit, de la vidéo. Je réfléchis à des formats. Donc, il y aura pas mal de choses parce que c'est quand même un monstre qui nous a quittés. Et donc, je le disais, Menotti n'a que 33 ans quand il arrive à la tête du Globo et il construit une équipe. Il prend le temps, il a le temps de construire une équipe avec, parfois, il va chercher à l'époque, parfois, des joueurs totalement méconnus. Et le cas le plus symbolique, le plus symbolique, c'est René Ousmann. Alors ça ne vous parlera peut-être pas à vous qui êtes plus jeune. Bon, moi je l'ai pas vu jouer non plus, mais voilà, quand on s'intéresse au football argentin, on sait qui est René Ousmann. René Ousmann, il va le chercher à l'époque en 1973, il a 20 ans ce garçon et il n'a juste jamais joué en première division, il joue en troisième division à Defensores de Belgrano et c'est Menotti qui va le chercher. Et ce garçon, il a des caractéristiques très particulières. Il est petit, 1m65, c'est un ailier qui passe son temps à dribbler. On disait qu'il était capable de dribbler le vent. Cette phrase est absolument incroyable. Je vous laisse imaginez à qui ça peut laisser penser. Et en fait, il s'inscrit dans ce Huracan-là. Il faut planter le décor aussi dans cette époque-là. Huracan n'a juste jamais rien gagné à l'histoire, depuis que le football argentin est professionnel. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'Huracan n'a rien gagné. Ils ont gagné des titres à l'époque amateur, mais là, c'est rien du tout. Et donc, il s'appuie sur ce genre de joueurs. Il a un mélange de joueurs avec ces jeunes-là et d'autres types de joueurs qui sont déjà au club. Je pense à Coco Basile, que l'on connaît. Hein. Il a été sélectionneur de la sélection argentine plus tard. Bref, il met en place cette équipe. Et surtout, il met en place une idée claire. Dans une époque où c'est pas franchement le truc, le but du jeu, c'est d'avoir le ballon. C'est de combiner, de trianguler, de construire des actions rapides et tout. Et soit de construire des actions rapides à base de triangulation, soit de savoir être patient. En gros, de savoir contrôler le rythme d'un match et, entre guillemets, d'étouffer l'adversaire. Ça vous fait penser à quelqu'un, on en parlera plus tard. Et c'est véritablement une révolution parce que, si vous ne le savez pas, le football des années 60-70 en Argentine, c'est pas un football de poète, c'est un football d'une violence inouïe, un petit peu à l'image des sociétés. D'ailleurs, un jour, il faudrait peut-être s'amuser à faire un parallèle entre la façon dont on joue au foot et les climats sociaux des époques. Mais en tout cas, en Argentine, le football argentin des années 60-70 est extrêmement violent. Le début des années 70, c'est Estudiantes. On va en reparler parce que vous allez voir, parce que vous savez peut-être qui est présent du côté d'Estudiantes et ce que représente Estudiantes. C'est celui d'Independiente. Pour paraphraser un petit peu des termes de Menotti, le football des années 70 en Argentine, c'est l'époque de la triche et des mesquineries. Voilà. Et lui, son Huracan, doit juste savoir jouer au football, savoir être bon, savoir bien jouer. Mais le problème, c'est que ça... Enfin, le problème, non. Le truc, c'est que ça marche. Et Huracan, lorsqu'il aborde ce tournoi, le Metropolitano 1973, pardon, juste pour rappeler qu'à l'époque, il y a deux tournois en Argentine. Un tournoi qu'on appelle le Metropolitano, qui a généralement occupe la première moitié de l'année, le premier semestre, et qui n'est ouvert qu'aux équipes affiliées officiellement à la fédération. Et le deuxième, qui s'appelle le Torneo Nacional, qui lui est ouvert à des équipes qui sont affiliées de manière indirecte, qui se qualifient via des championnats plus régionaux, via des ligues régionales. Bref, c'est des tournois longs quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que son Huracan massacre à peu près tout le monde. Il y a des équipes qui prennent de sacrés cartons. Pour vous donner une idée à quel point le Globo domine outrageusement ce tournoi de Metropolitano 1973, c'est qu'ils sont premiers sur 31 des 32 journées et ils sont sacrés à deux journées de la fin. Pas connu le Globo de 73, El Flaco, je l'ai découvert au Mondial 78. Ouais, je peux comprendre, Izanoé. Je peux comprendre. Ousmane, un dribbleur incroyable. Exactement. Faudra que j'en parle un petit peu de ces joueurs-là. Faut que je trouve des formats pour parler de certains joueurs de ces époques-là parce qu'ils sont forcément méconnus, encore plus chez nous, et ça peut être hyper intéressant. Bref, je le disais, Ousmane et la bande de Menotti, voilà cette équipe d'Huracan de 1973, eh bien cette équipe d'Huracan de 1973, bah, elle est donc tout simplement championne. Elle est sacrée championne, vous voyez un extrait du Grafico de l'époque qui s'affiche, champion à deux journées de la fin, devant Boca. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est aussi, alors, il y a la façon de jouer, il y a un certain football qui est mis en avant. On n'avait pas vraiment vu ça avant, mais c'est surtout le premier titre d'une équipe qui n'appartient pas aux cinq grands dans l'histoire sur un tournoi long. Il y a eu des titres avant pour Central et pour Newell's, mais sur des tournois plus courts. Là, c'est sur un tournoi long, 32 journées. Et c'est surtout, à l'époque, et ça va le rester très longtemps, l'unique titre professionnel d'Huracan. Le deuxième titre professionnel d'Huracan, c'est la Copa Argentina 2014. 41 ans plus tard. Et donc, je le disais, c'est le triomphe d'une autre manière de jouer. Il montre à cette époque-là que l'on peut jouer, que l'on peut... On est dans un football, je le disais, violent. On revoyait les épisodes d'Intercontinental avec Estudiantes notamment. On en a déjà parlé. Revoyez les épisodes avec Independiente, les triches en Copa Libertadores. Voilà, bref. Il y avait des équipes qui avaient montré un petit peu une façon qu'on pouvait jouer au football et triompher. Je pense à la Chacarita en 69, j'en avais parlé dans un magazine. Mais bref, cet Huracan-là apporte un vent de fraîcheur. Un vent de nouveauté. Il y a un côté révolutionnaire à sa façon de jouer. Il n'y a pas vraiment de lendemain, on ne va pas se mentir, à cette Huracan-là. Personne ne va suivre ce chemin-là à ce moment-là. Cette équipe-là, mine de rien, elle a quand même un héritier à Huracán. C'est celui de ce que l'on a appelé les Anges de Capa en 2009. Pareil, emmené avec par un garçon qui n'était pas vraiment 10, qui était un peu 9,5 plutôt à l'époque. Un garçon qui s'appelait Javier Pastore, vous savez, un autre flaco. Bref, et qui a perdu ce titre de 2009 parce que, je vous disais, Huracán, beau jeu, Menotti, beau jeu, pour lutter contre les tricheries et les mesquineries, bah voilà, les Anges de Capa qui étaient dans le même esprit s'étaient fait voler par Vélez lors de la dernière journée avec un but absolument pas valable qui a donné le titre à Vélez. Voilà. Bref, c'est le premier fait de gloire de Menotti, très clairement. Il se fait un nom véritablement là. Et pourquoi ça ne dure pas aussi? C'est parce qu'il va quitter Huracán et il va être chargé de reconstruire l'Argentine. La sélection argentine était à la dérive totale. Depuis plusieurs années, 66 avait chuté et la sélection argentine, un petit peu dans le climat de l'époque, Menotti le disait lui-même, c'était plus vraiment un honneur d'aller représenter la sélection argentine à cette époque-là. On va donc aborder son cycle à la sélection, mais l'Argentine est vraiment à la dérive, le processus des sélections est vraiment à la dérive et donc Menotti est nommé avec pour une mission, véritablement, en 1978 et la Coupe du Monde, que l'Argentine va avoir à organiser. L'organisation, on va planter un petit peu le décor de tout cela, parce que c'est là où il y a une autre dimension qui va arriver. L'organisation de la Coupe du Monde est donnée à l'Argentine avant le coup d'État. On va essayer de rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé. On va rappeler donc le contexte. On est au début des années 70, c'est celui du terrorisme d'État. Il y a eu des massacres avec des exécutions de militants de gauche sous la dictature, de la révolution argentine. Il y a un semblant de démocratie qui semble s'installer avec le retour de Perón de son exil. Ça ne dure pas vraiment. Il y a plusieurs mouvements politiques et sociaux qui font que tout s'effondre après la mort notamment de Perón. Il y a une véritable décomposition sociale, économique et politique. Qui est un petit peu fomenté par les libéraux et qui vont aussi servir à justifier ce coup d'État. Il y a des organismes paramilitaires qui sont un petit peu partout. Et on pense par exemple à la AAA, qui est l'Alliance anticommuniste argentine, qui organise le massacre des Aïsas en 1973. On est dans un climat très très lourd, on sent que ça bascule, qu'il y a une démocratie qui est en train de basculer. Et finalement, comme ça a été dit, alors on en avait parlé sur Hello, je remettrai le lien aussi parce qu'on avait l'entretien et les réactions de Ricardo Gota, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Fuimos Campeones, qui est vraiment un livre qui retrace la campagne de 78. Le coup d'État n'a pas été une grande surprise. On savait que ça allait arriver à n'importe quel moment. On sentait que ça allait arriver. Et donc, la dictature arrive et elle se retrouve à devoir gérer cet héritage qui est l'organisation de la Coupe du Monde 1978. Particulier pourquoi? Parce que ça va diriger les regards du monde vers son pays. Bon, ça a été un peu un casse-tête, on ne va pas entrer dans le détail. Est-ce qu'on va l'organiser ou pas? Il y a eu plusieurs éléments pour et contre. Videla n'était pas trop pour au départ, mais bon, finalement, ils organisent ça. D'ailleurs, si vous regardez le logo de la Coupe du Monde 1978, si vous vous en souvenez, c'est un ballon de foot avec deux bras qui font ça, et ça, ce sont les bras de Perón. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il y a des messages un petit peu cachés partout, mais c'est pas trop ça qui est le problème de la dictature, c'est qu'il va falloir gérer un autre homme, César Luis Menotti. Parce que Menotti, lui, c'est un homme très à gauche, mais vraiment très à gauche. Son père était péroniste, vous l'avez probablement vu si vous avez lu l'interview, la maison était parfois prise pour cible quand il était gamin. Lui a été péroniste, a quitté le mouvement quand il a vu ce que c'était en train de devenir, il est devenu membre du Parti communiste. Donc, vous imaginez que quand on est sur une dictature telle que la dictature s'est installée, telle que la dictature argentine, il n'était pas bon être trop communiste. Et pourtant, Menotti reste à la tête. Il pense à partir à ce moment-là, mais il est maintenu à la tête de la sélection. Et en gros, l'idée de la junte à l'époque, c'était de se dire, Menotti va être, entre guillemets, je vais le dire comme ça, l'opium du peuple, il va permettre de détourner les regards. Il avait envisagé, je l'ai dit, de quitter le poste. Il accepte ce mariage et il le dit lui-même parce que on lui a dit il vaut mieux lutter de l'intérieur que d'être à l'extérieur. Bref, donc lui, il savait concrètement ce qui se passait. Il le savait parce qu'il allait aux réunions des résistants communistes et tout. Donc il savait ce qui se passait. Il a dit plus tard qu'il savait pas vraiment, qu'il pouvait pas imaginer que ça allait jusqu'au vol de la mort. Je rappelle pour ceux qui savent pas ce qu'étaient les vols de la mort, c'était que Les opposants, ils étaient mis dans des avions et ils étaient balancés dans le Rio de la Plata, hein, tout simplement. Ils connaissaient l'histoire des Aparecidos. Voilà, il y avait un contexte donc de répression et d'oppression très très fort. Et lui, en fait, il s'est dit « je vais lutter au sein de ma sélection ». Par la façon d'être de ma sélection. Alors, il y a plein d'histoires, hein. On ne va pas toutes les évoquer. Il y a même une histoire que, rappelant, et Menotti l'a expliqué dans un documentaire, justement sur cette époque-là, où il explique qu'il a caché, une résistante qui allait, avant qu'elle parte en exil, en Europe. Le pape François disait un peu la même chose que lui en tant qu'évêque de la Buenos Aires, je crois, il luttait de l'intérieur. En fait, ouais, c'est ce que lui ont conseillé d'autres membres du Parti communiste de rester au poste pour. Voilà. Donc, il a résisté à sa manière. Sur le terrain, parce que il a gardé son image de révolutionnaire de gauche. Il a continué d'écouter, ça c'est Huracan, c'est pas la bonne chose. Il a gardé cette image de même dans le style de révolutionnaire de gauche. Continué d'écouter de la musique, de faire venir des gens sur des concerts, des gens qui étaient très à gauche, pour donner des concerts devant la sélection et devant la junte notamment. Et c'est ce que nous dit Gotha, hein, Ricardo Gotha, que sa résistance passait par le terrain, que le jeu était offensif et surtout reposait sur une notion, la notion de liberté. Et c'est très important de saisir cela parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages cachés. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette Coupe du Monde 78. Il y a beaucoup de messages cachés. Je vous renvoie vers l'histoire des poteaux noirs du Monumental. La bande noire au pied des poteaux, on l'a su bien après que c'était un message envoyé par les jardiniers de soutien envers tous ceux qui étaient torturés et tués par la junte. Personne ne le savait à l'époque. Hein. La junte pensait que c'était le classique parce qu'ils n'étaient pas très foot non plus. Bref, le fait est que il fallait que cette équipe représente le peuple, apporte aussi ce rayon de liberté au peuple. Et forcément, son Argentine, elle est quand même assez redoutable. Il avait une Argentine, parce qu'elle est quand même très dévaluée, hein, l'équipe de 78. Il avait quand même une équipe qui était très solide à chaque poste, qui jouait un football très offensif. Et surtout, et c'est ça qui avait changé à l'époque, parce qu'après 66, parce qu'il y a toujours eu ce côté « on veut faire comme l'Europe », son équipe avait un ADN très argentin. Menotti, vous l'avez peut-être vu dans l'interview, vous avez peut-être vu des éléments qui ont été présentés sur Menotti, est très attaché à l'ADN, à l'identité d'un pays. Il vante absolument le Brésil de Pelé, le Brésil de 70 notamment, et il est très très rude envers le Brésil qui a oublié son identité par exemple. Donc voilà, donc il y avait quand même une équipe qui était quand même très 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 solide. Fillol dans les buts, qui était un énorme gardien. Passarella était un très très grand défenseur. Et puis il y avait des joueurs offensifs comme Ardiles par exemple. On va pas entrer dans le détail de la sélection parce que je vais perdre la moitié des gens. Mais il y avait surtout un joueur exceptionnel qui s'appelait Mario Kempes. Et qui était donc un petit peu le maître à jouer de cette équipe-là. Et sur le banc, Ousmane était sur le banc par exemple, le fameux René Ousmane. Bref, c'était une équipe très dévaluée, mais très très forte, qui a donc décroché le titre, le premier titre argentin. Il y a des polémiques, on ne va pas entrer là-dessus, on sait tous, le Argentine-Pérou, j'ai déjà écrit là-dessus, il y a déjà eu des choses là-dessus, donc je vais vous renvoyer là-dessus. Mais le fait est que cette idée de jeu qui a triomphé avec Huracán, cet esprit de liberté, et essayer de retrouver un petit peu l'identité footballistique argentine, ce jeu fait de liberté et un petit peu touchant à l'art, hein, parce qu'on sait qu'il y avait des liens aussi très forts entre le tango et le football, par exemple. Bref, il fait passer ce message-là. En coulisses, il protège ses joueurs, hein, il les fait vivre véritablement dans une bulle, ils ne sont jamais associés à la dictature, les militaires sont interdits d'avoir le moindre contact avec les joueurs, donc il n'y avait absolument aucune relation entre les deux. Ça a été reproché, hein, par certains joueurs derrière, mais le fait est que, voilà, il a véritablement protégé ses joueurs d'une réutilisation politique, il n'y en a eu pas beaucoup derrière, et forcément, au milieu de tout ça, parce que l'Argentine est championne du monde, et au milieu de tout ça, il y a un autre rayon de soleil qui arrive à la fin des années 70. Vous voyez ce dont je veux parler, je pense, et parce qu'il faut en parler quand on parle de Menotti, c'est Diego. Parce que Diego n'est pas à cette Coupe du Monde 1970. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été dites sur la relation entre Diego Maradona et Menotti, comme quoi les deux ne s'entendaient pas, etc., etc. Ils ont eu une période de trouble, ils ont eu une période où ils ont été fâchés, on va y revenir dans un instant, c'est à l'époque Bilardo. C'est à l'époque où Bilardo est à la tête de la sélection argentine. Menotti, au départ, a dit qu'il n'avait pas trop regretté. Vous l'avez vu peut-être dans l'interview qui date de 2014, qu'il n'avait pas franchement regretté son choix, puisqu'au final, il est champion. Et en fait, il avait très peur pour Diego, parce que Diego, en 78, il est encore tout jeune. Je rappelle que Menotti est l'homme qui a lancé Diego en sélection argentine, alors que Diego n'avait que 16 ans et 4 mois. Et donc, Diego a 18 ans en 78. Et il n'a même pas 18 ans au moment de la Coupe du Monde, d'ailleurs. Et il était donc très jeune et il avait peur, Menotti, que voilà, cette chose-là lui échappe et que Diego devienne un mauvais symbole. Ça, c'est ce qu'il avait dit à une époque. Ensuite, il a quand même reconnu que, bon, il a merdé, il aurait dû l'emmener. Le fait est qu'il estimait ce Diego-là. Ils étaient voilà, très proches, entre guillemets, l'un de l'autre. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il fait de Diego son pilier de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde 79, U20, que l'Argentine gagne. Il va le retrouver à Barcelone en 83 quand il va prendre la tête de Barça, mais dès 79, il veut envoyer Diego à Barcelone parce qu'il a déjà été approché en 78-79 par le Barça pour rejoindre le club, et c'est Grondona qui bloque le transfert de Diego à Barcelone. Diego va aller, vous le savez, à Boca, et ensuite il ira à Barcelone, mais bon, il va y avoir un moment, un temps suspendu avant que ces deux-là se retrouvent. Et d'ailleurs, Menotti a travaillé 6 ans avec Diego Maradona. Et d'ailleurs, pour vous montrer, hein, parce que je sais qu'on... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la relation entre Menotti et Diego. Diego avait déclaré en 2017 que le meilleur entraîneur qu'il a jamais eu en sélection, c'est César Luis Menotti. Et voilà. Et tout ça pour dire que, donc... Il a marqué cette époque-là à l'échelle locale avec Huracan, à l'échelle nationale avec une Argentine qui produisait un jeu qu'elle n'avait jamais produit jusqu'ici, dans une période où c'est vraiment très très rude, où tout est vraiment très dur, et il fait souffler entre guillemets ce vent de liberté. Bon, on va pas s'enflammer, hein, ils se sont pas sentis libres très longtemps, hein, les Argentins à l'époque, mais quand même. Et quand Menotti est revenu ensuite à la tête des sélections argentines, puisque vous le savez peut-être, en 2019, il a été nommé directeur des sélections par Chiqui Tapia. D'ailleurs, Diego, à ce moment-là, s'en était plus que félicité, hein, puisqu'il avait dit d'ailleurs, si El Flaco est fort, alors le football argentin le sera aussi. Et le football argentin a été fort. C'est Menotti qui a proposé de continuer avec Scaloni en 2019, à peine nommé, hein, donc d'initier le cycle Copa América 2021 et Coupe du Monde 2022. Vous voyez ce que ça a donné derrière. Et donc voilà, donc son influence sur le football de sélection argentine est importante. Et notez le parallèle quand même, je le disais, en 78, il redonne un ADN argentin à sa sélection avec une équipe qui sait mélanger, entre guillemets, la lutte et l'ultra-technicité de ses joueurs. C'est exactement ce qu'a fait Scaloni avec la sélection de 2022. Tout ça pour dire qu'il y a cette filiation qui est clairement assumée et qui est assez évidente. Alors, on évoque forcément Menotti, on est obligé, si on évoque Menotti, on est obligé, comment dirais-je, d'évoquer Diego, mais on est aussi obligé d'évoquer Bilardo parce que on va aller au-delà d'une lutte entre deux sélectionneurs, les deux premiers sélectionneurs champions du monde, mais on va aussi aller sur quelque chose qui a vraiment dépassé le cadre du football, puisque c'est devenu, bah, limite, une opposition philosophique comme il y en a rarement, hein, quand même dans le football, et comme on en voit rarement dans certains pays. Alors, je vous avais évoqué le parcours de joueur et le Huracán de Menotti, qui tranche à une époque où le football en Argentine est un sport de combat. Un football froid, clinique, qui n'hésite pas à jouer avec les lois, qui n'hésite pas à tricher, qui n'hésite pas à être mesquin. Donc, le football d'Estudiantes, le football d'Estudiantes des années 70, dirigé par Osvaldo Zubeldia, et dont le relais sur le terrain est futur assistant et futur héritier, ça nomme Carlos Bilardo. Vous avez donc deux types de football qui vont s'affronter. Vous avez le football, comment dirais-je, mesquin, le football froid, clinique, et le football romantique, Bilardo contre Menotti. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est assez amusant quand même, parce que vous allez voir que leur histoire est quand même très très liée, c'est que quand il arrive à Huracán au début de l'année 72, fin d'année 71 ou début de l'année 72, Menotti, il succède au duo Zubeldia-Bilardo, qui était à Huracán. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous le savez tous, Bilardo a succédé à Menotti en 83. Et donc, vous le savez, Bilardo va emmener l'Argentine vers le deuxième titre mondial, celui de 86, avec une équipe qui est plus aimée peut-être que celle de 78, même probablement plus aimée que 78. Alors, on ne va pas essayer de donner des raisons, elles sont multiples, et puis ce n'est pas le débat. Mais donc, vous voyez qu'on a deux styles de football, mais surtout, on a deux types de pensée. Et c'est ça où ça devient important, et c'est là où ça déborde, c'est qu'on quitte très vite le cadre du football, on devient sur une opposition quasiment morale entre les deux. Et la guerre va éclater très très vite. En fait, on sait, elle éclate très très vite. Je dis ça, en fait, on ne sait pas vraiment quand elle démarre. On sait que les deux se sont affrontés très peu en tant que joueurs. Là, vous avez une image où à l'époque où Menotti à droite, vous comprenez le surnom El Flaco, vous voyez à quel point il est grand et lancé sur la droite et Bilardo est à gauche à l'époque d'un Estudiantes Boca. Je crois que c'est en 65 cette image. Mais ils ne se sont pas vraiment affrontés. Et en fait, je le disais, il y a une histoire d'identité qui est en jeu, d'identité, la lutte de l'Argentine, de son côté romantique, artistique, voilà, et le côté un petit peu européanisation, froid, plus clinique, qui s'affronte. On est sur cette guerre, pour vous donner une idée, à l'époque, le football argentin, l'ADN argentin, la façon de jouer argentine, avait un nom. Ils appelaient ça, cette façon de jouer, ils appelaient ça le nôtre, notre façon de jouer. Donc voilà, donc c'est une guerre qui éclate par médias interposés, qui ont bien joué pour bien mettre le feu aux poudres à chaque fois. Vous aviez, pour schématiser un petit peu, vous aviez d'un côté, vous aviez Clarín qui était plus pour Menotti, et vous avez de l'autre côté des personnes comme Victor Hugo Morales, la fameuse voix de la Coupe du Monde 86, qui était plus pro-Bilardo. Et justement, on évoque Victor Hugo Morales, c'est cette guerre qui va créer le fameux Barrilete Cosmico de Diego quand il marque ce but face aux Anglais. Barrilete Cosmico, le cerf-volant traduit, cerf-volant cosmique. Eh bien, sachez que cette phrase n'est pas une inspiration de Victor Hugo Morales sur l'instant, n'est pas une espèce d'envolée en transe de Victor Hugo Morales après le but de Diego face aux Anglais. Non, elle vise directement Menotti, parce que c'est lui qui a créé cette notion de cerf-volant pour Diego. Il l'a créé lors d'une interview qu'il a donnée en se rendant à la Coupe du Monde au Mexique. Il est interviewé par un journaliste qui est avec lui dans l'avion, qui le tanne un petit peu, et au bout d'un moment, Menotti lui dit « C'est bon, vas-y, on va parler, fais ton interview et tout. » Et l'interview est publiée le 25 mai, soit presque un mois avant ce match-là. Et donc, Menotti explique que pour lui, Diego est devenu un cerf-volant. Et donc, en gros, il essaye de parler du fait que depuis 84, il ne progresse plus trop et il est un petit peu baladé du point de vue émotionnel. Il ne sait pas trop comment jouer dans cette équipe d'Argentine. Il vise clairement Bilardo, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, c'est lui qui crée cette histoire du cerf-volant cosmique. Alors, si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus, instant publicité, ça ne coûte pas de mal. Tout est là-dedans. Dans 22 juin 86, voilà. Il est question de cette histoire. Menotti est très présent, forcément. La guerre Menotti-Bilardo est présente. L'histoire du Barrilete Cosmico est présente là-dedans. C'est dans la boutique de Lucarne Opposée, n'hésitez pas. Vous voyez l'épaisseur, ça, vous aurez de la lecture. Mais voilà, tout est là-dedans. Et bref, voilà. Alors, c'est lui qui a créé, clairement, le cerf-volant cosmique. Mais au-delà de ça, je le disais, donc cette lutte entre ces deux hommes a coupé l'Argentine en deux pendant 20, 30 ans, enfin depuis 86, l'Argentine était coupée en deux. Ça a un petit peu changé, ça s'est adouci, entre guillemets, une fois que Bielsa est apparu. Mais à une époque, c'était pas compliqué, dès qu'un entraîneur arrivait, il fallait le classer soit billardiste, soit ménotiste. C'est exactement ça, Waterté. Il fallait choisir son camp, concrètement, et ça a un petit peu bougé les lignes avec Bielsa, pas trop avec Bielsa, plus avec ses héritiers qui sont extrêmement nombreux, qui ont inondé depuis le football argentin et qui sont dans des entre-deux. Et pendant très longtemps, on est devenu qui était le nouveau Bielsa ou qui était l'héritier de Bielsa. Et ça, ça a encore un petit peu changé, notamment avec Gachardo, parce qu'il n'appartient à aucun camp. Il y avait un mélange de Bielsa et de Sabella. Sabella, c'était pas non plus Bilardo. Enfin, c'est compliqué. Vous voyez, les lignes ont bougé un petit peu, mais pendant une bonne vingtaine d'années, cette histoire, cette lutte Bilardo-Menotti est devenue, je le disais, une lutte morale qui opposait deux camps. Et en gros, concrètement, c'était deux visions du monde. Celle où tout est permis pour pouvoir avancer, face à celle où non, il y a la beauté du geste, entre guillemets. Et merci. Merci Nirai pour le follow. Et donc, ça a véritablement coupé l'Argentine pendant deux décennies. Et ça continue, enfin, on continue de l'évoquer un petit peu, mais il n'y a plus cette guerre ménotiste-bélardiste. Déjà, parce que les deux sont très âgés. Il y en a un qui vient de nous quitter, il y en a un autre qui n'est pas forcément dans les meilleures des conditions. Moi, quel est mon camp, ouais. Bah, en fait, tu vois, je pense que c'est générationnel. Je pense que si tu demandes à ceux qui ont grandi dans cette Argentine-là des années 70-80, moi, je ne suis pas argentin, donc je ne peux pas te le dire, mais qui l'ont vécu au quotidien, ils ont forcément un camp, je pense, entre les deux. Donc voilà. Mais donc, du coup, se pose une question. Maintenant que Menotti nous a quittés, nous a laissés, va se poser cette question de l'héritage. Et c'est compliqué de parler d'héritage de Menotti quand on parle de cette philosophie-là, de cette manière d'aborder les choses, surtout qu'on voit que depuis, d'autres se le sont aussi appropriés et tous n'ont pas forcément salué Menotti. D'ailleurs, dans l'interview que vous avez vue sur le site aujourd'hui, accordée au Grafico, il explique que lui ne laissera aucun héritage, que personne ne porte cet héritage-là pour une seule raison, et à cause ou grâce, parce qu'il ne le dit pas de manière négative, une seule personne qui s'appelle Pep Guardiola. Alors c'est important parce que c'est peut-être là que se situe l'héritage de Menotti. Ça paraît bizarre dit ainsi, mais tout est peut-être là. Alors, il explique, je vais le citer parce que c'est important, Guardiola était un ouragan dévastateur, il a balayé toutes les tricheries, tous les mensonges, il les a détruits, il les a anéantis de telle sorte qu'aujourd'hui, même les Italiens veulent avoir le ballon et jouer. Guardiola a réussi ce que le Brésil de 70 n'a pas pu faire. Cet ouragan est devenu une brise encourageante en Argentine, mais aussi dans d'autres pays, dans tous les pays, sauf le Brésil, qui joue de moins en moins bien. Et Guardiola, donc, je le disais, pourrait être son plus brillant héritier. Les deux hommes ont discuté à plusieurs reprises, sont très proches. Guardiola voue une admiration sans faille. Là, vous voyez une photo qui a été prise d'un repas qu'ils ont organisé. Ils ont passé 4 repas ensemble. On sait tous qu'avant de devenir entraîneur, quand il se posait la question de savoir comment il allait pouvoir devenir entraîneur, Guardiola est allé rencontrer Bielsa. D'ailleurs, petite anecdote, s'il est allé rencontrer Bielsa, c'est parce que Gabriel Batistuta, qui l'a croisé à la Roma, il me semble, lui avait dit « si un jour tu veux devenir entraîneur, il faut que tu parles avec Bielsa ». Et il est allé voir aussi Menotti parce que Jorge Valdano et Angel Capa lui avaient dit « si tu veux devenir entraîneur, va voir Menotti ». Bref, il avait été voir les deux et les deux avaient une relation très très proche. On va pas parler de filiation ou de relation père-fils, mais plus de relation un petit peu mentor et disciple, même si on sait que c'est un petit peu connoté, un petit peu exagéré de dire ça parce qu'on n'a pas forcément qu'un seul mentor, mais en tout cas il y a une admiration réciproque. Menotti disait que personne ne lui a posé autant de questions que Guardiola, que c'était une mitrailleuse. Alors qu'il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, il savait déjà tout, et la réciproque, je le disais, était valable. Guardiola a même envisagé, quand je le disais, hein, Menotti a été interné à l'hôpital fin mars, et Guardiola avait envisagé de se rendre en Argentine pour dîner une nouvelle fois avec lui. Il n'a pas forcément, ça ne s'est pas fait. Et je vous laisse, on va clore cette partie héritage là-dessus, sur ce qu'a déclaré Guardiola à l'annonce du décès de Menotti. Et je vais vous le lire, hein, tant qu'à faire. J'éprouve une grande tristesse à l'idée que quelqu'un avec qui j'ai partagé pas moins de 30 heures de merveilleuses conversations au cours des 4 fois où j'ai visité l'Argentine soit parti. Pour moi, c'était un génie grâce à ses idées. C'était le plus grand séducteur du football argentin. L'écouter, c'était une conférence. César était tout, l'esprit, l'éducation, l'intelligence. Il faisait de la poésie avec ses mots et était toujours fidèle à ses convictions. Le style n'est pas négociable, disait-il toujours. Lors de ma dernière visite à Buenos Aires en mars 2018, nous avons eu encore un merveilleux et long et amusant dîner avec toutes les nuances footballistiques qui me passionnent. Je voulais simplement l'écouter. Il y a très peu de gens qui vous donnent tellement dans la vie qu'ils ne s'en vont jamais. Voilà, l'héritage est sans doute là, la plus belle phrase est sans doute là aussi, donnée par Guardiola. Et n'oubliez pas que le fameux La Pelota No Se Mancha, hein, qui est aussi associé à Diego, est aussi un héritage de Menotti, qui disait « on ne triche pas avec le ballon ». Voilà comment on peut refermer ce dossier sur César Luis Menotti. C'était important d'en parler. Je le disais, il va y avoir toute une série, il va y avoir une série d'articles, il va y avoir aussi d'autres formats. Je vais réfléchir à différents formats parce que il faut que les gens puissent mesurer, ceux qui ne savent pas, ceux qui savent aussi, ça leur fera plaisir de redécouvrir ça. Mais ceux qui ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière Menotti, qui ne peuvent pas le mesurer et que j'ai à peine effleuré, vous voyez, sur 40 minutes, là. Ceux qui ne savent pas forcément ou ne connaissent pas ou ne mesurent pas, il faut qu'on puisse faire ça. Menotti, c'est le beau football, on ne peut pas ne pas aimer. Je pense que même les billardistes sont fans de Menotti. Tu sais, Menotti disait que la guerre billardo-Menotti, enfin cette guerre-là, c'était de la connerie. Hein. Donc... C'est voilà. Mais oui, clairement, oui, c'est un monument, exactement, Renaud. Mais voilà, donc il y aura toute une série, voilà. Mais il était important pour moi de faire un dossier spécial sur Menotti, d'insister un petit peu pour que, voilà, d'en parler à chaud aussi, hein, parce que vous voyez, ça s'est fait en 24 heures, voilà, on a essayé d'aller assez vite. Mais c'était important, important d'en parler. Quelques petits rendez-vous avant de se quitter. C'est une semaine de Libertadores, donc il y a des matchs de nuit, mardi, mercredi, jeudi, hein, dans ces nuits-là, dans les nuits de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi. Je ne suis pas convaincu de pouvoir les assurer. Pour ne rien vous cacher, je travaille jusqu'à 1h du matin, mardi, mercredi et jeudi. Donc ça me fait arriver en cours de route, mais peut-être, franchement peut-être, en fonction de mon état. Peut-être pas demain soir, mais peut-être plus mercredi soir. Demain soir, ça m'étonnerait. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera samedi prochain pour la soirée MLS, vers 1h du matin. Le prochain, il faudra parler de la Ligue IA qui nous attend au Mexique. Il y aura un article dans la semaine, hein, Alessandro. Vraiment, pour le coup. Je n'ai pas fait l'article de résumé de la fin du tournoi, mais il y aura un article sur la Ligue IA, très clairement. Mais on en parlera, ouais, on en parlera. Donc, il y aura la soirée MLS du samedi soir. Ça, vous en avez l'habitude, vers 1h du matin, parce que je crois que les premiers matchs sont vers 1h30, enfin 1h40, hein, vous connaissez le truc. On se retrouvera probablement lundi prochain. C'est pas sûr à 100% parce qu'il se peut que je sois en déplacement toute la journée. Et dans ces cas-là, je ne peux pas écrire mon émission. Donc, si je peux l'écrire la veille, peut-être, on verra. Mais bon, si on ne se retrouve pas lundi prochain, on se retrouvera le lundi d'après pour Lucarne américaine. Vous connaissez le lieu, vous connaissez l'endroit. Ça se passe en direct sur Twitch. Si vous nous écoutez, hein, si vous revoyez en replay sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à venir le lundi à 22h si vous pouvez, que ça soit sur Twitch ou sur la plateforme verte. Voilà, comme ça, vous pouvez réagir pendant l'émission, poser vos questions si vous le souhaitez. Voilà, on va rester là pour ce troisième épisode de Lucarne américaine. L'occasion pour moi donc justement de saluer ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à vous, toujours un plaisir de vous retrouver. On se retrouve donc samedi soir pour de la MLS, peut-être en milieu de semaine pour de la Libertadores. Et sinon, prochain rendez-vous, probablement lundi prochain. Ce qui est certain, c'est que ça sera un lundi, ça sera à 22h et ça sera toujours à cet endroit-là. D'ici là, bon match au singulier et surtout au pluriel parce qu'on est qu'en début de semaine et qu'il y a pas mal de foot à regarder. Et on se retrouve déjà samedi pour une soirée MLS. Salut tout le monde!